L'actualité des Alpes du Sud avec ce week-end compliqué dans la région.
Entre neige et pluie, les secours ont été fortement mobilisés pour évacuer des habitations inondées. Des axes routiers et ferroviaires ont été coupés. Des entreprises sous les eaux. Le point dans un instant.
De la neige également, il en est question doublement dans l'actualité.
Car comme chaque année, il va falloir veiller aux 2000 km de route dans les Hautes-Alpes. Pour cela, le dispositif de viabilité hivernale a été déclenché. 78 engins, 240 agents du département, 186 déneigeurs volontaires seront mobilisés. Explication de Marcel Cana, vice-président du département en charge des infrastructures routières.
C'est un site paléontologique et géologique exceptionnel qui accueille 30 000 visiteurs chaque année.
La dalle aux ammonites de Digne-les-Bains date environ de 200 millions d'années, mais est menacée. À moyen terme, il faut donc investir 1 700 000 euros.
Et puis Cyrielle, il y aura aussi un petit goût de Noël dans ce journal.
Le grand attendu en ce début du mois de décembre, c'est bien sûr le sapin de Noël, des sapins qui peuvent être labellisés comme ceux de la pépinière Robin dans les Hautes-Alpes. Météo.
C'est une amélioration, hein, même si les nuages sont encore nombreux en bordure d'Isère ainsi que sur la chaîne frontalière en matinée. Les éclaircies sont plus larges cet après-midi sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Côté température, comptez 5 à 10 en vallée sur les Hautes-Alpes, ça montera jusqu'à 13 sur les Alpes de Haute-Provence. Week-end compliqué donc au niveau de la météo dans les Alpes du Sud.
Les fortes précipitations ont entraîné de nombreuses inondations dans les deux départements. De très nombreuses rivières et cours d'eau ont débordé dans les Alpes d'Haute-Provence, coupant des routes et inondant des secteurs. En l'espace de quelques heures, les pompiers basalpins ont reçu 350 appels et réalisé plus d'une centaine d'interventions ou reconnaissances. Des habitations ont été touchées, notamment à Perruis, Dauphin, Saint-Même, Sisteron, Volx ou encore Villeneuve. Les occupants ont été mis en sécurité dans des salles des fêtes ou des mairies. À 18h hier soir, 54 personnes avaient été relogées ou rassemblées dans des locaux communaux. 47 mises en sécurité avaient été effectuées ainsi que 6 sauvetages. Côté transport, la voie SNCF a été coupée dans les secteurs de Sisteron et de Manosque. La 51 a également été inondée. L'une des voies à Sisteron a dû être fermée. Dans les Hautes-Alpes, les pompiers sont principalement intervenus dans le Gapençais pour extraire des matériaux dans la Luye afin de faciliter l'écoulement des eaux. Des opérations de pompage ont également été réalisés. L'abattoir municipal de Gap et le SICA, le Montagnard, ont été inondés. 14 personnes se retrouvent aujourd'hui au chômage technique. Les services devraient rouvrir demain si la décrue est amorcée. D'après les prévisions météo, la situation doit progressivement s'améliorer durant ce lundi.
Et face à ces risques météorologiques, l'appel tombé à point nommé.
La communauté de communes Serre-Ponçon-Val d'Avance s'engage pour la prévention des risques en montagne. Lancé par le ministère de la Transition écologique au printemps dernier, l'appel à projet Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne, ou STRÉPRIM, est l'opportunité pour la communauté de communes de devenir un acteur clé dans ce travail d'aménagement d'un territoire concerné par de nombreux risques naturels comme les chutes de blocs, les inondations ou les crues torrentielles. Après avoir déposé son dossier le 28 octobre dernier, la collectivité attend désormais une réponse des services de l'État pour le premier trimestre 2020. Et si cette réponse est positive, cette labellisation et le financement qui en découleront permettront de mettre en place la première phase de cet appel à projet. Marine Marcotti est en charge du projet STEPRIM pour la communauté de communes de Serre-Ponçon-Val d'Avance.
On va dans un premier temps chercher à compléter les connaissances en matière de risques qu'on a et qui sont actuellement manquantes. Donc ça veut dire connaissances sur les aléas, le risque inondation, le risque que chute de blocs, etc. Mais également connaissances sur les enjeux qui sont présents sur le territoire, où se situent les habitations et les différents lieux de vie. Donc ça va se dérouler sur 2 ans, une fois que notre territoire sera labellisé. Et en même temps, on engage une concertation avec les différents acteurs locaux, donc la communauté de communes, mais également les communes et le département, de façon à ce qu'on établisse un programme d'action concrète. Donc ça, c'est sur les 2 premières années. Une fois qu'on a abouti notre programme d'action concrète, qui vont être vraiment plus de la maîtrise d'œuvre, par exemple poser des filets de protection de chute de blocs ou créer des barrages dans les cours d'eau, on déposera un programme opérationnel cette fois-ci.
Des propos recueillis par Christophe Lourenceau. La deuxième phase de cet appel à projet, donc la mise en œuvre de ce programme d'action concrète sous la supervision d'un animateur de projet recruté grâce au financement de l'État.
Alors la météo, c'est aussi la neige qui a joué les troubles faits ce week-end, notamment dans le nord de Haute-Alpes.
Un département dont les acteurs du réseau routier se réunissent comme chaque année alors que le dispositif de viabilité hivernale est entré en vigueur. La présentation s'est tenue ce vendredi au centre de Baratier dans l'Embrunais, en présence notamment de la DIRMED pour les routes nationales, du département, des autoroutes, de la gendarmerie et des pompiers. Ce dispositif, mis en action depuis le 25 octobre et jusqu'au 24 avril prochain, mobilise au total 78 engins, dont 48 chasse-neige, 240 agents aidés par 186 déneigeurs volontaires pour 2000 km de route. Les équipes travaillent en décalé pour des interventions pratiquement 24 heures sur 24 avec l'objectif principal de définir le niveau de praticabilité des routes et les rendre à la circulation le plus tôt possible. Un système de surveillance est mis en place en lien étroit avec Météo France, un dispositif qui a un coût entre 5 à 6 millions d'euros par an pour le département. Et une nouveauté cette année, les cellules locales d'intervention. Explication de Marcel Cana, vice-président en charge des routes.
Ces deux cellules d'intervention locale vont être basées, une sur le Guy S3 pour tout ce qui est accès dans les stations du Haut-Guil, c'est-à-dire dans le Kera, Vars et Risoul, et une autre cellule qui sera basée sur l'Argentière pour toute la partie nord, c'est-à-dire Briançon, l'Argentirois. Pourquoi ? C'est par rapport au problème que nous avons connu l'année dernière. Est-ce que c'était par manque d'anticipation ? Après, vous savez, on fait des rétextes, des retours d'expérience pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je crois que l'anticipation l'année dernière n'était pas bonne. On n'a pas anticipé suffisamment là-dessus. Et ce que nous voulons, avec la gendarmerie, avec nos collègues de la DIR, nos collègues d'Escota aussi, anticiper largement avant, quand on a un phénomène météo qui arrive, qui est important, eh bien, écoutez, on prend certaines dispositions, on interdit aux poids lourds, on veille à ce que les équipements spéciaux soient montés sur les véhicules pour dire que ça puisse passer, que nos engins puissent aussi déneiger.
Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas une cellule d'intervention locale au col du Lautaret ?
C'est vrai que le dernier coup, on a fermé le col en urgence. C'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je voulais. Quand tout est bloqué, ben, on n'a pas d'autre solution que de fermer. Et c'est vrai qu'il faut que, il faudra qu'on s'organise là-dessus. C'était des camions polonais ou des pays de l'Est qui sont passés sans équipement, qui nous ont bloqué le col. Et quand le col est bloqué, on peut se mettre à personne qui part de Grenoble et qui veut venir dans la vallée de la Guisane et qui se trouve bloqué à la Grave et qu'il faut qu'il fasse demi-tour. On peut se mettre à sa place et avec les problèmes que ça peut poser, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on anticipe.
Marcel Cana pour Alpe 1.
C'est un site paléontologique et géologique exceptionnel. La dalle aux ammonites de Digne-les-Bains accueille environ 30 000 visiteurs chaque année.
Ce site naturel unique au monde date d'environ 200 millions d'années, soit le Jurassique inférieur. Cette dalle compte plus de 1550 ammonites de grande taille, c'est-à-dire de plus de 70 cm. Ce site est donc le plus emblématique de la réserve naturelle régionale nationale géologique d'Haute-Provence. 1 700 000 euros de travaux sont prévus. Écoutez René Massette, président du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Le projet était indispensable parce qu'il s'agissait donc de sauver cette dalle aux ammonites qui avait pas mal de dégradation et donc à court ou moyen terme, elle était donc condamnée. Lors de la partition de la réserve géologique, donc la partie donc prévention, la partie conservation a été confiée au conseil départemental. Il nous a paru nécessaire de faire quelque chose là-dessus et à faire quelque chose, on a voulu en faire un site touristique majeur avec donc une possibilité non seulement d'aller voir la dalle aux ammonites, puisque dans l'état où elle est, il y a déjà 30 000 visiteurs. On veut doubler ou tripler ce chiffre en mettant à disposition du public des aires de stationnement, un centre de médiation et une passerelle qui permettra de mieux voir ce qu'est la dalle aux ammonites.
Des propos recueillis par Michel Bonnefoy. Notez que les travaux qui ont débuté le 23 septembre devraient se terminer en février prochain. Une subvention de plus de 500 000 euros est apportée par l'Union européenne. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur apporte quant à elle son soutien à hauteur de 170 000 euros. Le reste est à la charge du département.
Eh Noël, on y pense déjà, Cyrielle, et notamment pour les décos.
Et qui dit décoration, dit sapin de Noël, et pourquoi pas se procurer un sapin label rouge. Nous avons traîné nos guêtres du côté de la pépinière Robin à Saint-Laurent-du-Croc, qui cultive les sapins depuis 1948. Le reportage d'Olivier Milleville.
À la pépinière Robin, c'est l'effervescence. Depuis le début du mois, c'est la période la plus importante de l'année où en deux mois, l'entreprise réalisera 50% de son chiffre d'affaires. Le temps est venu de livrer les sapins de Noël. Une trentaine de saisonniers ont été appelés en renfort jusqu'au 24 décembre pour couper, floquer, conditionner et livrer près de 130 000 sapins de Noël de différentes tailles pouvant aller de 40 cm à 12 mètres de haut et surtout de différentes catégories. Christine Robin, la directrice commerciale, est à la manœuvre.
Alors on vend plusieurs types de sapins. On vend les trois principales espèces qui sont l'épicéa commun, l'épicéa classique, celui que tout le monde connaît, qui perd ses aiguilles un petit peu plus rapidement que les autres. Ensuite, on vend du sapin bleu, l'épicéa pingin, qui garde très bien ses aiguilles et en plus qui sent bon. Puis le sapin de Norman, qui est le plus vendu aujourd'hui puisqu'il représente 80% des ventes. Les sapins que nous produisons proviennent de cultures, donc c'est des champs, des terrains agricoles sur lesquels ils sont élevés depuis la graine et jusqu'à la taille nécessaire pour être coupés. Et cette tradition, oui, je pense que, en tout cas aux pépinières Robin, on a commencé cette production dans les années, fin des années 50.
Ces sapins de Noël vont rejoindre les 4 points de vente en direct à Gap, Manos, Sisteron et Barcelonnette, ainsi que les 12 points de vente en supermarché dans la région et une partie en export en Europe, en Italie, en Suisse ou encore en Allemagne. Mais il y a une catégorie de sapins qui rejoindra ces points de vente plus tard, dans le mois de décembre. C'est le sapin Label Rouge. Depuis octobre 2016, la pépinière Robin est la première entreprise en France qui a eu la certification.
On propose du sapin Label Rouge aux pépinières Robin en 2 catégories, épicéa commun et sapin Norman. Et la caractéristique de ces sapins, c'est premièrement une sélection esthétique très sévère et très rigoureuse, donc un plus beau sapin encore, et surtout une plus grande fraîcheur puisqu'il est coupé après le 25 novembre. Donc c'est un sapin plus beau et plus frais que vous pouvez trouver en jardinerie à partir du 1er décembre.
Le cahier des charges prend en compte tout le processus de production, depuis la sélection des graines, la qualité des jeunes plants, les distances de plantation, jusqu'à l'entretien des plantations et la coupe, garantissant une qualité supérieure pour un sapin de Noël d'excellence. Cette année, on attend une coupe qui devrait avoisiner les 15 000 sapins Label Rouge, soit plus de 10% de la production totale de l'entreprise. Un achat qui sera accompagné, comme depuis des décennies, par un cadeau qui va en faveur de l'environnement.
On a la tradition d'offrir un petit sapin replanté, un petit épicéa ou un petit sapin âgé de 4 ans pour que chaque client comprenne bien qu'on ne détruit absolument rien quand on achète un sapin naturel. Au contraire, on est incité à replanter soi-même un sapin comme nous pépiniéristes le faisons.
Et un reportage signé Olivier Milleville.
Alpe 1 Sport. Et c'est un derby qui a collé au score en Ligue Magnus ce dimanche soir.
Les Rapaces de Gap se déplaçaient dans l'antre des Diables Rouges de Briançon et c'est une victoire pour eux, 3-2, mais sur le fil, car les hommes d'Éric Medeiros les ont emmenés jusqu'aux prolongations. C'est finalement Julien Correa qui libère son équipe. Prochain rendez-vous dès ce mardi, Gap se déplace à Rouen, Briançon va à Amiens. Au classement, les Rapaces sont 8e et les Diables dernier.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.